l'actualité des idées aujourd'hui, quelle place pour le français, la francophonie? La France a-t-elle le monopole de la francophonie? On en parle avec l'écrivaine Véronique Tadjo. Elle la veut agissante, cette francophonie, et nombreuse. Comment faire pour faire progresser le français partout dans le monde? On en parle avec elle à partir de 12h55. Mais d'abord, il est l'homme qui déshabille la société, Jean Libon, réalisateur de la série culte Striptease. Jean Libon, avec son complice Yves Inan, vous présente aujourd'hui leur premier long métrage pour le cinéma, sous la robe de la juge Anne Gruvez, qui tente d'élucider un crime, l'assassinat de deux prostituées à Bruxelles 20 ans auparavant. Jean Libon est notre invité, à retrouver tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Récompensé au festival de Saint-Sébastien et à celui du film Grolandais de Toulouse, Ni juge ni soumise sort en salle mercredi prochain. Dans son propre rôle, comme vous dites, Anne Gruvez, magistrate belge, de son bureau en deux chevaux jusqu'au palais de justice, on y suit Madame la juge, en prise avec le quotidien des affaires pénales et un dossier de meurtre sordide, vieux de 20 ans qu'elle a choisi de rouvrir. Bande-annonce et pièce à conviction.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Si demain, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux. »
Chacun se console à quelque chose. C'est comment? Et comment mon ex-femme est partie? J'ai adopté un chien pour...
Remplacer votre femme?
Voilà. Hein.
Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer de la prison. C'est rien à côté de moi.
Détournement du nom que s'était donné un collectif de féministes, ni pute ni soumise. Le titre de votre film, Jean Libon, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ni juge ni soumise. Fallait oser quand même, par les temps qui courent, un titre pareil.
Ben, on a trouvé le titre avant les temps qui courent. Hein.
Avant les temps qui courent.
Bien que.
Alors, mais vous ne le changez pas aujourd'hui, vous le gardez. Le film va sortir en salle mercredi prochain.
Pas le choix. De toute façon. J'ai pas envie de m'intégrer dans les temps qui courent, comme j'ai jamais voulu le faire, donc voilà quoi. Je passe pas pour tout d'amérer.
Tout est dit, mais elle est bien juge, cette femme. C'est une vraie femme et une vraie magistrate. Comment la décrire, cette juge Anne Gruvez? C'est d'abord une gouaille, mais c'est aussi une gueule, un visage de cinéma pour vous, Jean Libon?
On n'a pas pensé à ça. On n'a pas du tout pensé à ça. On avait déjà rencontré cette dame pour un autre film il y a 7-8 ans, un film qui s'appelait pour la télévision... pour Striptease, un flic, une juge et l'assassin, où on avait suivi un vrai pogard, un crime, on l'a rencontré avec un matin, un cadavre dans une pièce, et la juge d'instruction qui est de service arrive et c'est elle. Et, sauf qu'à ce moment-là, elle ne nous connaissait pas, elle n'a pas ouvert toutes les portes. Et donc, quand Bertrand Fèvre est venu nous trouver il y a 2-3 ans pour faire un film pour le cinéma, on a repensé à elle en disant que c'était un personnage, et c'est un vrai personnage. Et donc, maintenant, quand on a eu l'autorisation de toute la hiérarchie, de toute sa hiérarchie à elle, ben, aucun problème, elle a ouvert toutes ses portes, une grande confiance entre elle et nous. Quoi.
Elle vous avait tapé dans l'œil, quand
tout
même,
à fait.
D'une certaine
manière. C'est un bon casting. Quoi.
C'est un bon casting. Et c'est comme ça que ça marche aussi pour vous. Elle ne s'adresse jamais à la caméra.
Jamais.
Elle ne la regarde pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ce qu'elle vit à ce moment-là est plus important que notre présence à nous. C'est un peu le secret de Striptease, toujours. Hein. On se demande toujours comment est-ce que vous faites la caméra. Alors vous, qui êtes une belle blonde, hein, je vais prendre un exemple, une belle blonde qui a une chevelure très compliquée. Tous les lundis matin, après de venir ici à la radio, vous avez depuis 20 ans rendez-vous chez Simone la Champigneuse. Donc vous y allez, hein, vous connaissez tout de sa vie, elle connaît tout de votre vie, et soudain, il y a une équipe de télé qui arrive chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Allez, répondez-moi. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est à moi que vous parlez,
ouais,
vraiment. C'est moi la belle blonde.
Oui, c'est vous la belle blonde.
Ah, d'accord.
Qui allait chez Simone.
J'ai la champouineuse me faire coiffer.
Ouais.
Et donc là, l'équipe de télé arrive pendant que je suis chez la champouineuse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?
Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le salon de coiffure?
Eh ben, je pense que tout le monde est quand même attentif au fait qu'il est filmé.
Ouais, tout à fait.
S'arrête peut-être de couper les cheveux ou pas, ou fait comme si.
Et fait comme si en disant, et c'est un bon métier que vous faites là. Et vous travaillez pour qui? Ah, pour la France Télévisions, ah, c'est bien, mais moi je regarde la RTL, etc. Donc en fait, ça se passe pas. C'est que la situation est chaude, c'est la caméra qui provoque la situation. La situation, le son de coiffure est froid. Donc ça marche pas. À l'encontre, vous êtes très riche. Vos parents étaient très riches. Vous avez un frère et une sœur. Vos parents viennent de décéder, accident d'hélicoptère. Vous vous retrouvez chez le notaire, parce qu'il y a le casino de Nice, et 100 hectares de Sauternes dans Beaujolais, et un gros portefeuille d'actions.
Pas mal.
Hein, pas mal, hein. Et donc, les trois oiseaux, là, qui sont à vos genoux avec une caméra à l'intérieur du son, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce que vous vivez à ce moment-là, de l'ouverture du testament, est plus important que la présence de la caméra. Donc, ça fonctionne. Ça ne se passe qu'une fois, ça fonctionne. Les clients, comme l'appelle Anne Gruet, en fait, ils passent chez elle, c'est la prison ou la liberté. Donc, en fait, elle fait son boulot, eux, ils reçoivent les choses, ils ont un peu peur, ou ils sont confiants, et ça se passe comme ça. Donc, notre présence, tout le monde s'en fout, en fait.
C'est un peu la reine des punchlines, comme on dit aujourd'hui. On va parler francophonie juste après, donc j'en profite. Votre juge, c'est la reine des phrases fortes, des phrases qui font mouche, des mots qui tiquent. Tâchez de vous contrôler, arrêtez de jurer. Là, on est encore à peu près dans le champ de ce que peut dire, le champ lexical de ce que peut dire une juge. La colère d'Allah, si vous récidivez, ce sera rien à côté de la mienne, parce que moi, ce sera pas quand vous serez mort, ce sera tout de suite que je vais vous régler votre compte. Autre, elle dit, il a juste emmerdé Bobonne. Elle dit aussi, j'ai suivi des cours de self-défense, je peux vous plaquer au sol, mais je vais d'abord vous assommer, ça peut être très très simple.
Ça vous choque tout ça?
Non, c'est pas que je sais pas si ça me choque, je me dis juste qu'elle a une sacrée gouaille, votre juge.
Tu es belge, hein?
Ouais. Elle est belge,
bah oui.
C'est ça.
Bah oui.
C'est simplement une définition
tout
du
belge. Bêtement, tout bêtement.
Mais au-delà de ses phrases, au-delà de ses mots, elle a une certaine idée de la vie. Elle pose vraiment un regard clairement, sur ce qui l'entoure. Et elle n'hésite pas à nous délivrer aussi sa pensée, ce regard qu'elle porte sur la vie.
Ah, clairement, d'un côté, c'est une femme qui croit en la vie, hein. Qui croit beaucoup en la vie, qui croit beaucoup en l'amour, même si ça lui pose quelques problèmes parfois. Mais vraiment, c'est une femme qui a envie de tirer les gens de la mouise dans laquelle ils sont. À côté de ça, on n'en a pas traité de ça, mais il y a quand même une SBL, comme on dit en Belgique. Donc, vous, c'est une loi... Enfin,
je ne peux pas faire de la traduction du belge. Pardon.
C'est une association caritative, je dirais, qui aide les jeunes délinquants à sortir de leur mise. Quoi. Et vraiment, elle va aussi parfois dans une gare porter la bouffe au SDF, par exemple. C'est une femme qui a beaucoup de préoccupations par rapport aux autres, très certainement.
Alors on suit son quotidien, il y a une part de réel très importante, mais à travers elle, à travers ce qu'elle est, ressort aussi l'absurde et l'insolite de beaucoup de situations. Le dessinateur Roland Topor en avait fait sa marque de fabrique. Sous cette couche de noir, il fallait pas gratter très longtemps pour y trouver un humanisme sincère.
Moi, je ne crois pas tellement à l'humour en tant que sujet, en fait. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout aux revues, par exemple, qu'on a vu naître et mourir, dont le sujet était l'humour. Parce que, en fait, l'humour, c'est une façon de considérer n'importe quel... L'humour, c'est déjà un mot très vague et très, très flou. Mais, à la limite, je peux reconnaître un certain humour à des gens qui traitent un certain sujet d'une certaine façon. Mais l'humour comme sujet, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un sujet qui soit l'humour. Parce que, pour moi, l'humour... c'est pas une définition et c'est un processus, c'est un système qui consiste à rendre évidente une réalité. Beaucoup d'une façon, enfin, je veux dire, quand le type qui va mourir, qui va être fusillé, on lui propose une cigarette et il dit non, j'essaie justement de ne pas fumer. C'est le parallèle entre la dernière cigarette et le fait qu'il va crever tout de suite. Je veux dire, il y a une chose qui devient immensément importante, et c'est presque une technique pour rendre la réalité visible.
Jean Lubon, l'humour pour rendre la réalité visible.
Clairement, clairement. Alors moi, je crois qu'il y a un grand une grande philosophie que moi j'ai dans la vie, et c'est très important, même si c'est difficile pour l'instant, on doit pouvoir rire de tout avec tout le monde. Ça me semble, moi, une chose qui est dans la vie, si on n'a pas ça, je crois qu'on n'existe pas. Je crois qu'on n'est pas un être humain, même quelque part. Alors je sais que l'époque dans laquelle on vit pour l'instant va à l'encontre de ça, puisqu'on ne peut plus rire de personne, de rien avec personne, mais c'est vraiment très, très, très dommage. Moi, l'humour, s'il n'y a pas l'humour dans la vie, c'est pas possible pour moi. Et donc, je crois qu'Anne Grué, quelque part, elle rend aussi... Alors, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on est quand même belge, le pays du surréalisme, quand même. Même dans les choses les plus tragiques, on parvient à rire de nous, quand même.
Et en même temps, est-ce que faire rire, c'est ça l'intention première pour
vous, Jean-Libon ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ça n'a jamais été notre intention. On a créé Marc Gamène chez moi, Striptease, dans les années 80, parce qu'on était soi-disant de grands reporters à la télévision, et on courait le monde pour traiter de sujets pendant 3-4 semaines, comme ça, avec une caméra blimpée, comme on disait. C'était de la pellicule encore, donc ça faisait du bruit. Donc ça, et c'était une caméra sonore, et un petit nagra, un micro qui se baladait comme ça. Et on a eu une énorme frustration, parce qu'en fait, on avait deux instruments formidables qu'on n'employait pas. Et donc, à un moment, on s'est dit, après avoir fait ça pendant 10 ans, on s'est dit, arrêtons de courir au monde, restons près de chez nous, et parlons de la vie à côté de chez nous. Et donc, c'est commencé ce qu'on connaissait bien, et parlons de ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est arrêté de courir au monde, on a fait la rue à côté, et les gens, et on a parlé de tout, en fait, de tout, je dirais, de tout ce qui fait l'être humain, en fait. Et donc, il y a quand même plus de 870 sujets, et je crois qu'on a touché tous les domaines, avec un regard un peu décalé, c'est peut-être vrai. Et puis voilà quoi. Mais et je crois qu'à travers ça, on a quand même très très bien l'état d'esprit d'un Européen occidental, français ou belge, à la fin du deuxième millénaire, au début du troisième. Je crois que si un sociologue, un bobologue venait au troisième millénaire, il y a tout à sa disposition, hein, les bouquins, les trucs, le cinéma, etc., la télévision, s'il est un peu intelligent, il doit prendre Striptease pour voir qu'il est un peu l'esprit de l'époque dans laquelle on vit pour l'instant.
Un sociologue, un ethnologue, un anthropologue,
n'importe quoi en ogue.
En ogue. Jean-Libon. Combien d'épisodes de Striptease vous aviez tourné cette série documentaire phare de la télévision qui a tenté un retour un peu compliqué à l'été 2012 en France. Combien d'épisodes vous avez tourné?
On a, au total, France et Belgique, on a tourné plus de 870 sujets. Oui.
Plus de 870 sujets. Et vous en avez encore beaucoup dans vos, vos tiroirs? Tout a été diffusé?
Tout a été diffusé, bien sûr. Oui.
En quoi cette juge, elle est dans l'ADN de Striptease, Jean-Libon?
Ben, c'est un personnage Striptease qui parle de la vie dans laquelle on vit. C'est que même à travers elle, c'est un juge... Ça décrit la justice, mais ça décrit aussi la vie en Belgique quand même. C'était que tout, et même spécialement la vie à Bruxelles, parce que tous les clients, comme on les appelle, sont quand même ultra représentatifs de la population bruxelloise, quelque part, et des difficultés qu'on peut parfois vivre à Bruxelles. Alors je sais que vous allez me dire, c'est tous des Maghrébins, pratiquement. C'est un truc qu'on nous a dit, on a même traité de raciste. Il faut bien vous dire qu'on a filmé à peu près 80 personnes, il y avait 3 bons blancs dans l'histoire. C'est quand même tous des gens qui sont nés en Belgique, de deuxième, sinon de troisième génération. Alors, est-ce qu'on peut estimer que c'est une culture ratée de notre part, nous, bons anglais, on peut se poser la question, quoi. Mais je crois qu'elle est très représentative, cette 1h30 de cinéma est très représentative de l'état d'esprit en Belgique pour l'instant.
Et de la diversité aujourd'hui, ouais, de la société belge telle qu'on la voit, en tout cas, ouais, dans les prétoires ou dans le bureau de, ouais, la juge d'instruction. Parce que c'est aussi une institution que vous filmez à travers,
ouais,
elle,
ouais,
à savoir, ouais, la justice.
C'est même plus que ça. Moi, je trouve que c'est plus que ça. C'est l'institution, mais c'est plus que ça. Je trouve que vraiment... Je dirais que c'est presque l'ADN de Bruxelles pour l'instant, très certainement.
Et à propos de Bruxelles, elle a une topographie de Bruxelles assez particulière, votre juge, construite sur tous les cadavres qu'elle a, ouais, pu voir au fil de son parcours. Sa vie est une gigantesque scène de crime, en fait.
Tout à fait, bien sûr. Mmh. Parce que après, elle veut devenir chauffeur de taxi. Faut pas oublier que quand elle sera virée à la retraite, elle veut devenir chauffeur de taxi. Mais vous savez, c'est un peu tous comme ça, la même chose. Hein. Je veux dire que moi aussi, j'ai quand même fait beaucoup de tournages à Bruxelles. Moi aussi, c'est un peu ça, j'en parle jamais, mais j'ai aussi mes repères. Il y a des choses dont il n'y a pas, des endroits dont il n'y a pas dans le film. Moi-même, j'ai filmé des choses juste à côté, quoi. Moi-même, si vous vivez un peu, si vous faites un peu ce métier-là, forcément, vos repères sont là. Quoi. Moi, je connais aussi la ville d'après les reportages que j'ai fait en ville.
Jean Libon, vous filmez avant tout des gens, des vrais gens, comme on disait. On ne dit plus tellement aujourd'hui, c'est plus très politiquement correct. Il y en a d'autres qui filment surtout des institutions, et dans les institutions, il y a des gens. On va écouter, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs, le documentariste Frédéric Weizmann.
Dans un certain sens, l'idée d'institution, c'est un prétexte, parce qu'il fonctionne de la même façon que les lignes dans une cour de tennis. Ça veut dire tout ce qui se passe dans l'endroit que j'ai choisi peut être dans le film. Tout ce qui se passe dehors de cet endroit, c'est un autre film ou ce n'est pas bon pour cet film. Et ça m'impose une limite. Et en acceptant cette limite, j'essaie de me plonger dans la vie intérieure de l'endroit que j'ai choisi. Tout ce qui se passe dans cet endroit m'intéresse, la façon que les gens exercisent le pouvoir. Mais ça, c'est une chose, la différence entre l'idéologie et la pratique. Et particulièrement, la chose qui m'intéresse, c'est la façon que les gens les comportent, la façon qu'ils agissent envers l'une et l'autre, tout ça. Ça, c'est le pari que j'ai fait quand j'ai commencé à tourner. C'était qu'il y a dans la vie quotidienne les choses amusantes, comiques, tristes, tragiques, banales, qui peuvent ressembler les choses qu'on trouve dans les grands romans. Mais moi, je les découvre, je ne les écris pas. Moi, je suis chanceuse d'être là quand des choses comme ça passent, d'être assez patiente, d'attendre que les choses comme ça passent. Et moi, j'ai tout le bénéfice de ces choses pour le film.
Et le point commun, Jean Libon, avec Frédéric Weizmann et sa démarche, c'est peut-être votre sens du cadre, tout ce qui se passe dans sa vie et dans le film. Mais vous n'allez pas chercher plus, vous n'allez pas chercher ailleurs, vous restez dans le cadre. C'est ça votre limite, Jean Libon ?
On n'écrit rien, ça c'est clair. D'ailleurs, je vous dirais, c'est impossible d'écrire ce qu'on voit. On n'a pas l'imagination assez fertile pour ça, ça c'est absolument clair. Je racontais, le premier film qu'on a fait avec elle, quand on parle de réalité et de fiction, le premier film qu'on a fait avec elle, donc le flic à juger l'assassin, on a une victime. On a un faux coupable, on ne sait pas encore, c'est un suspect, et qui dit lui-même, c'est peut-être moi qui l'ai tué. Il ne sait pas très bien, il était tellement pété qu'il ne sait pas très bien. Alors, on fait l'autopsie du cadavre, de la victime, et qu'est-ce qu'on trouve ? Et qu'est-ce qui disculpe le faux suspect ? C'est quoi votre avis ? Je vous pose la question.
Je ne sais pas.
On est en Belgique.
Je donne ma langue au chat. Une frite.
Exactement. Et on trouve une
c'est
frite.
C'est cliché.
Exactement.
Dans son estomac.
On trouve une frite dans le bol alimentaire de la fille qui disculpe le type qui dit c'est peut-être moi. C'est formidable. Mais si je suis un scénariste et qui écrit ça, et un producteur ou un directeur de chaîne qui voit ça, il dit bah, mon vieux, t'as fumé la moquette, quoi. Et donc c'est pas possible. Donc la réalité est toujours, toujours plus forte que la fiction. Donc je vais pas passer mon temps à faire de la fiction, ça m'ennuie.
Et là, la réalité, vous avez eu toutes les autorisations pour la tournée. Aucun visage flouté, des personnes auditionnées vues de face, les pièces du dossier dont les photos des corps montrées au grand jour. Vous pouvez montrer plus de choses aujourd'hui au cinéma qu'à la télévision, Jean Libon,
non.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Je vous dirais même que pour d'autres raisons, j'ai coupé pour un film de cinéma, deux séquences que j'aurais mises en télévision.
C'est-à-dire on peut demander lesquelles ou pas ou
Non, certainement pas, parce que le premier gars. Sauf que le producteur avait très très peur de ne pas avoir l'autorisation des 16 ans, quoi. Donc il avait peur de tout le monde d'être un
des
peu
limité. Des moins de 16 ans, des scènes qui étaient un peu plus dures. Alors qu'à la télé, ça serait passé.
Aucun problème.
Mais comment c'est possible
Parce que moi, je passe tout ce qu'on veut.
Alors, pourquoi vous avez choisi le cinéma
Parce qu'on est venu me trouver. Enfin, moi, je suis un fonctionnaire à retraite. Et donc, depuis lors, je ne travaille plus. Donc, un monsieur, Bertrand Fèvre, qui est venu me dire « Écoute, tu veux pas un film pour le cinéma, quoi ?» Et donc, j'ai dit « Peut-être bien que non. » Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, alors, on a aussi la faiblesse de croire que l'écriture striptease étant disparue de toutes les chaînes, on a la faiblesse de croire qu'elle peut encore apporter quelque chose. Donc, on a proposé ça, donc on l'a fait, quoi. Donc, pour moi, c'est un film de plus. On parlait de 860 10 films tout à l'heure, pour moi, c'est 871e, quoi.
Avec un rythme nouveau, peut-être, 1h30, voire un peu plus. La différence avec la réalité, Jean Libon, c'est cette écriture fictionnelle qui fait aussi votre patte, pas de voix off, mais des séquences agencées pour faire sens. Sens avec quoi ? Comment vous faites vos choix narratifs ?
Dans ma tête, tiens. je construis un fil rouge, c'est assez simple. Je construis un fil rouge qui la réalité me l'impose, ce fil rouge. C'est qu'il y a des hauts et des bas dans cette enquête, donc je la suis. Et entre-temps, je mets des clients. Et pour moi, c'est un panel, je dirais. Il n'y a pas deux fois la même situation, même si on a vécu différentes fois, plusieurs fois la même situation. Et donc, on met ça et on monte ça en rythme, naturellement. C'est assez simple, hein. C'est assez simple. On a l'air de croire que c'est compliqué, mais ça,
c'est finalement très simple.
C'est assez simple. Hein.
Influence revendiquée, puisqu'on parle de cinéma, celle du réalisateur italien Ettore Scola.
Tout à fait.
À propos des affreux, sales et méchants, son film sorti en 76, voilà ce qu'il disait.
Je ne voulais pas être tendre, car la tendresse, la pitié ne sert à rien, sert seulement à sauver notre âme, notre conscience, mais on ne fait rien. Continuer à dire, comme a dit toujours la rhétorique bourgeoise, que les pauvres sont bons, sont pleins de fantaisie, sont heureux, car ils méritent le royaume des cieux, j'y crois pas, et j'ai dit qu'il faut s'occuper d'eux maintenant dans cet royaume. Je ne crois pas que ce soit une comédie, mais ce soit un apologue, extrémisé, très dilaté, je ne sais pas si on dit.
Oui, peut-être, oui. Enfin, grossi, en tout cas.
Grossi, oui.
C'est très grossi, oui. Pourquoi ça ? Ça fait rire, enfin, je veux dire. Est-ce qu'on a le droit de rire des pauvres gens comme ça ?
Mais j'ai tourné mon film dans l'ambiance réelle, et beaucoup, à part Nino Manfredi, les autres sont des vrais zonards qui ont joué leur rôle. Et leurs mêmes ont cette façon de rigoler, de se moquer d'eux-mêmes et de se moquer de la société injuste qui les opprime.
Vous faites confiance, comme lui, à l'intelligence du spectateur pour comprendre ce qui se joue dans ces scènes ?
On espère, on espère. Et je crois que quand même, dans l'écriture de Triptis, on y est quand même arrivé, j'espère. Autre anecdote. Avant, en 85, les réseaux sociaux, tout ça n'existait pas. Donc les gens nous écrivaient, soit téléphonaient, soit écrivaient. Une des premières lettres qu'on a reçues, c'était une A4 comme ça, que les gens avaient dessinée. Donc, dans Triptis, à l'époque, il y avait 4 sujets d'un quart d'heure. Ça passait en prime time à 20h. Donc, la lettre disait, on regarde votre émission, 3 générations. Les grands-parents, les parents et les enfants. Quand c'est fini, on ferme le poste et puis on s'engueule. Et c'est formidable, c'est ce qui voulait dire qu'à ce moment-là, au moins ils discutaient de ce qu'ils venaient de voir. Donc, moi j'aimais bien le premier et le troisième, non, moi j'aime bien, t'es un connard parce que t'as rien compris. Donc forcément, je crois qu'il reste quelque chose. Et quand on réapparaît un peu maintenant, quand j'entends des gens qui me disent « Ah, Striptease, Striptease, Striptease », je crois que quand même, dans l'esprit de quelques-uns, il est quand même resté une petite graine, j'ai l'impression.
Et à propos de petite graine, quand on voit tout ce qu'elle entend, de quoi elle est le réceptacle à longueur de journée, votre juge, on se dit qu'il est impossible de tout faire rentrer dans un esprit qui serait trop cartésien. Sa folie lui permet peut-être d'être aussi à l'écoute des personnes qu'elle a en face d'elle. On va réécouter sa voix, un extrait, un échange avec l'un des prévenus, je ne sais pas si on dit comme
un
ça,
client.
Un client. Oui, elle dit un client qui est dans son bureau.
Pourrais-je vous poser une question, s'il vous plaît ?
Oui.
Je voudrais savoir, l'ADN, je suis obligé de le donner ? Ou c'est mon droit de ne pas le donner ?
Vous pouvez dire non, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ordonne qu'on le prenne, et puis si on doit vous plaquer au sol, on le fera.
Vous me poursuivez pour cela ?
Je vous plaque au sol, et je le prends. Et puis c'est fini.
C'est une menace ?
Absolument pas, c'est simplement les termes de la loi. Hum. Par contre,
c'est les articles.
En ce qui vous concerne, vous commencez à être un peu injurieux, je pense.
Non, madame la présidente, pas du tout.
Oh,
pas
ben,
du
vous
tout.
Savez,
non,
madame, moi,
je m'explique.
Pas très grave.
Alors, c'est une obligation que je dois le donner à Staden.
Pas du
Sinon,
tout,
vous
c'est
me
pas une
au
obligation.
Sol. Ah ben voilà, je peux ne pas le donner aujourd'hui.
Et si vous le refusez, je vous fais plaquer au sol et ouvrir la bouche.
Quand ça ?
Maintenant, tout de suite, bien sûr. D'accord ?
Et qui me plaquera au sol ?
Oh, ben, c'est monsieur, ça, ils sont assez nombreux. C'est pas moi qui vais le faire, hein ? D'accord ?
D'accord, madame la présidente.
Sauf que moi, je regarderai. Et je me permets quand même de vous dire, monsieur Mohammadi.
Oui, madame la présidente.
que je n'en ai peut-être pas l'air, mais que j'ai suivi des cours de self-défense et que je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration, je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Ça va être très simple.
Ah, c'est vrai, vous avez raison, madame la présidente, oui.
Bon, et elle fait du yoga, hein, à part ça dans la vie, parce qu'on sent qu'elle a quand même besoin de moments pour se détendre. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est quand même une absence de solennité dans l'image que vous montrez de la justice belge aujourd'hui, à travers elle. On a aussi du mal à comprendre si le texte, ce que disent les textes, hein, il y a un certain arbitraire ou alors un réel sens de la subjectivité ou de l'interprétation de la justice à travers elle. On l'entend à travers cette histoire d'ADN, dont on ne sait toujours pas s'il est obligé de le donner ou pas le donner. Mais il y a aussi en elle quelque chose de très poétique, tout au long du film, l'avoir chassé des escargots pour nourrir son rat, perché par exemple sur son épaule et qui semble partager avec elle, à son oreille, ses intuitions. Elle est à l'image de ces mots que vous placez en épilogue et qui disent « un rat, deux chevaux, des poulets, c'est Miss Marple qui est de retour, mais au centre de la basse-cour, est-ce du fumier, est-ce de l'engrais ?» Comme Miss Marple, l'héroïne d'Agatha Christie, la force de votre juge, Jean Libon, c'est sa connaissance de la nature humaine, vous diriez ?
Clairement, clairement. Clairement, c'est sa compassion aussi, elle ne garde rien. Et son. Oui, elle me dit, hier encore, elle disait moi, j'aime les gens. Depuis trois jours, à qui je suis avec elle pour l'instant, où elle entre dans un monde qu'elle ne connaît pas, donc le monde des médias, etc., télé, radio, etc. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de s'exprimer chez elle, de sortir chez elle, et sur son amour des gens. Hier, elle n'arrêtait pas de répéter, je crois que c'est vrai, vraiment.
Et elle le dit, rien de ce qui est humain ne peut me dégoûter, comme disait le Seigneur.
Ouais. Exactement.
Ça, c'est votre héroïne, une héroïne de la réalité, de la vraie vie, qui a d'ailleurs reçu un prix d'interprétation, meilleure actrice au Festival de Saint-Sébastien. C'est bien.
Ça, c'est drôle quand même.
Meilleure actrice de sa vie. À tous ceux qui ont fait des années durant à striptease et à vous, le procès de forcer le trait, on peut rapprocher quand même ce film aussi des images du procès de Jawad, ici à Paris, dit le logeur de Daesh, qui s'est ouvert la semaine dernière devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le prévenu qui a hébergé deux des terroristes du 13 novembre et qui est accusé de recel de malfaiteurs et de non-dénonciation de crimes terroristes. One Man Show, théâtre de boulevard, Jawad fait rire. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les autres.
Non, pas du tout.
Par la télé.
Comme ça, alors je vous dirais, on aurait filmé ça entièrement, nous, avec notre gars, je crois que ça aurait été un film formidable à part ça. Et tout ce que vous dites aurait sorti, mais un peu décalé, naturellement. Et je crois qu'on aurait une autre vision complète du procès, complètement différente. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant, mais quand vous prenez 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, ça ne tient pas debout, quoi. C'est vraiment sur la longueur, et puis mettre de l'ordre dans la longueur, en fait. Moi, je crois, j'ai aucun doute là-dessus.
Quand la réalité dépasse la réalité, merci
beaucoup
à vous, Jean Libon. Ni juge, ni soumise, en salle en France, mercredi prochain. Merci.
Merci.